pencher aujourd'hui sur le dernier baromètre 2025, sur la maturité numérique.
Oui, c'est ça. Alors, l'agence du numérique, en fait, donc, sort tous les ans une photographie, on va dire, finalement, des usages du numérique par le citoyen belge. Et donc, voilà, j'ai lu pour vous ce rapport.
En matière de maturité numérique, on a quel âge? 14, 18, 21?
Alors, je ne pencherai pas sur la réponse, vous me le permettrez, mais voilà. En tout cas, il y a des bonnes choses et il y a des choses qui vont moins bien. Ah oui. Et c'est ce qu'on va, développer.
Avec, malheureusement, quand même, même au-delà de la maturité numérique, une chose qui a été notée dans ce baromètre, c'est la fracture qui continue malheureusement de se creuser.
Oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est un peu, je vais dire, le résultat finalement de ce baromètre. C'est qu'on voit que les usages continuent de bien se porter. Le Belge et le Wallon utilisent correctement le numérique ou à peu près. Mais ce qui coince vraiment, c'est cet écart qui maintenant prend de plus en plus de place par rapport aux citoyens. Parce que les technologies évoluent et font qu'aujourd'hui, on est face à des réalités qui sont plus complexes qu'on ne le pensait au départ.
Mmh. C'est vrai qu'on distingue différents types de fractures numériques et qu'avant, quand on parlait de fractures numériques, on parlait d'un point de vue technique, mais aujourd'hui, on parle d'autres types de fractures numériques qui s'installent.
Oui, c'est ça. Hein. Donc, la fracture qu'on dit de premier degré, donc c'est celle où... voilà, on avait besoin d'avoir accès à ce matériel numérique. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que 95% de la population a au moins un appareil numérique à disposition et une connexion Internet.
Ça veut dire qu'il existe quand même encore 5% de la population, c'est pas rien, qui n'a aucun appareil connecté.
Aucun appareil connecté ou pas de connexion Internet. Et là, on vise principalement les personnes les plus âgées, je vais dire, donc plus de 75 ans. On vise également, et ça m'inquiète de plus en plus, c'est qu'on parle aussi des femmes seules, hein, qui sont seules dans le ménage, et on parle également des personnes qui sont les moins favorisées en termes économiques.
Oui.
Alors ça, d'une certaine façon, on s'en doutait un peu, parce que la connexion Internet ou l'appareil numérique reste quand même un appareil qui est cher, et la connexion Internet, on le sait, en Belgique, reste élevée. Mmh. Et donc... voilà, effectivement, les 5% que vous soulignez, Cédric, c'est vrai que ça reste quand même énorme en termes de population, mais on voit qu'on est de plus en plus maintenant dans ces 5% représentent toujours la même population, en fait.
C'est ça.
Mais...
avec malheureusement, aucune avancée qui est faite, par exemple, pour pouvoir y pallier avec des services, par exemple, sociaux. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça existe, qui pourrait fournir ce matériel adéquat aux personnes les plus fragilisées.
Oui, mais j'en parlais hein, dans les précédentes chroniques. Il y a effectivement des solutions qui existent pour prêter du matériel aux personnes ou des cours qui sont donnés aux personnes les plus âgées, par exemple. Mais voilà, ça reste compliqué pour eux de suivre la technologie. Alors, honnêtement, même pour moi, qui suis... dedans, ça devient compliqué de tout suivre, de tout écouter, de tout lire, de tout entendre, parce que tout va tellement vite qu'on est vite décroché par rapport à ça.
Est-ce que vous êtes en train d'essayer de m'annoncer que vous êtes au bord du burn-out ?
Je suis au bord.
En tout cas, ça c'est le deuxième type de fracture qui est généralement décrypté, c'est celui de l'usage, une fracture d'usage, avec malheureusement de plus en plus aussi de personnes qui se sentent dépassées, comme vous qui pouvez vous sentir dépassé alors que vous êtes un spécialiste, du coup on est moins culpabilisé de se sentir parfois un peu dépassé par tout ce qui se passe. Mais il y a une troisième fracture qui a été mise en évidence aussi par le baromètre et à laquelle on ne pense pas forcément, c'est la fracture entre la sphère privée et le professionnel.
Oui, et là c'est un sentiment qu'on a tous un peu, je pense, c'est celle de dire, bon ben quand je suis à la maison et j'utilise Internet ou les technologies, je suis à l'aise, je suis tranquille, ça se passe bien. Maintenant, une fois qu'on transfère ça vers le monde professionnel, là, on arrive dans des situations beaucoup plus compliquées parce que l'usage des technologies dans le monde professionnel est beaucoup plus complexe. Hein, vous en doutez ici même à l'RTBF, la technologie est partout. Elle est complexe, mais elle est surtout aussi encadrée. Et ça embête un peu les gens de pouvoir avoir cette liberté d'utiliser les technologies parce que ce cadre pose énormément de problèmes, parce que ça coince les usages. Et puis l'intelligence artificielle, si je ne prends qu'elle, elle commence à se répandre de plus en plus dans les entreprises. N'oubliez pas ce que j'ai parlé la dernière fois aussi, ce fameux phénomène de tout ce qui est déclaré est montré, mais il y a aussi plein de choses qui sont faites sans que l'employeur n'en sache rien. Mm-hmm. Et là, ça commence à prendre de l'ampleur.
D'autant que ce qui a aussi été mis en évidence, c'est peut-être notre trop plein de confiance dans ce que l'IA peut nous apporter. C'est-à-dire qu'on lui prête trop de compétences, en fait.
On lui prête trop de compétences et en même temps, c'est un biais nouveau qui arrive. C'est le biais de l'illusion d'utilisation de l'IA. Alors ce biais, en fait, il est très particulier. C'est que on se dit, voilà, j'utilise l'IA, je fais un prompt, je pose la question, il me donne une réponse. Ça, c'est très bien. Par contre, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette réponse? Et en fait, le vrai travail, il commence là. Sauf que la plupart des personnes prennent pour argent comptant, et là, je vise principalement les étudiants. On voit souvent que les étudiants font du copier-coller, font une réponse toute préparée et ne retravaillent pas, ne développent pas assez cet esprit critique par rapport à l'IA.
C'est-à-dire que souvent on utilise l'IA comme pour poser une question sans lui avoir donné de cadre. C'est un peu l'étape que tout le monde oublie aujourd'hui, enfin que beaucoup oublient aujourd'hui, c'est de donner le cadre de base dans lequel l'IA va pouvoir travailler. Et si vous ne lui donnez pas un cadre bien particulier en lui précisant que vous voulez des réponses qui sont à la fois vérifiées, dont les sources sont crédibles, etc., vous risquez effectivement d'avoir des réponses qui vont un peu dans tous les sens.
Les réponses qui vont un peu dans tous les sens, là je vous rejoins, et en même temps des réponses de plus en plus standardisées. Donc on essaie d'utiliser l'IA d'une manière à pouvoir gagner du temps ou de la crédibilité dans son travail, mais puisque tout le monde fait la même chose, mais on se retrouve avec le même problème. Et donc on voit ces fameuses réponses automatiques IA qui apparaissent et qu'on veut maintenant essayer de débunker pour se dire tiens, finalement j'ai utilisé l'IA très bien, mais je dois le faire dans un cadre professionnel et je dois y mettre ma patte. Et c'est ça ce côté, effectivement, moins vous donnez d'infos à l'IA, moins elle pourra vous aider. Ça c'est une certitude, c'est comme si vous allez voir votre médecin et que vous lui dites juste simplement je suis malade. Plus vous lui donnez d'infos, plus il saura mieux vous aider, vous accompagner.
Alors, on fait une distinction aussi dans le baromètre entre les compétences numériques de base et les compétences numériques avancées. Alors, au niveau des compétences numériques de base, vous nous avez appris qu'il y a 55% des Wallons qui possèdent ces compétences numériques de base, ce qui veut dire une personne sur deux. C'est relativement peu, puisque l'Europe, elle, dans ses objectifs, demande à chaque pays d'arriver à 80% au moins d'utilisation et de compétences numériques de base pour la population d'ici 2030. On n'y est vraiment pas. Et quand on parle des compétences numériques avancées, ce sont seulement 24% des Wallons qui possèdent ces compétences.
Oui, ce chiffre m'alerte de plus en plus. Je le vois dans le quotidien quand j'accompagne les entreprises. Je le vois aussi quand j'accompagne les demandeurs d'emploi, enfin les chercheurs d'emploi maintenant avec le nouveau terme. Mais effectivement, on le voit parce que le décrochage, et on parlait justement au début d'intervention que l'écart en fait se creuse de plus en plus, et c'est effectivement le cas. Le fait d'avoir une compétence qui est complexe, qui est encadrée, l'usage de l'IA, la communication professionnelle, on parle de la visioconférence par exemple, toutes ces compétences-là, on se rend compte que les personnes doivent l'utiliser dans le milieu professionnel, mais déjà à la maison ça coince, parce que ce manque de compétences, ce manque de formation vient poser ce problème et ce constat qu'effectivement un Belge sur deux n'a pas encore ces compétences numériques de base.
Compétences numériques de base qui sont, on le rappelle pour faire la distinction avec celles qui sont dites avancées entre guillemets,
c'est un peu les mêmes, mais c'est le degré en fait qui vient un peu changer. On parle d'information et de culture numérique, mais qu'on soit dans un mode de départ, d'initiation ou bien dans une réflexion plus profonde, le problème reste le même, c'est que la base n'y est pas. Maintenant, on a aussi dans les compétences plus avancées, on parle de la programmation. Moi-même, je n'ai pas la programmation. Écrire un programme informatique, j'en suis incapable. Donc, voilà où on en est aujourd'hui, parce que tout évolue, tout change, et le problème, il est celui-là.
Oui, donc c'est moins grave, entre guillemets, de manquer de ces compétences numériques avancées qui sont effectivement plus pointues. Oui. Par contre, c'est dans celles de base, il y a un élément quand même sur lequel vous êtes déjà revenu aussi régulièrement dans ces chroniques, c'est celui de la sécurité, ce qui veut dire qu'une personne sur deux ne sait pas se sécuriser par rapport au numérique.
Oui, tout à fait, ne sait pas se sécuriser, a des soucis pour déceler une arnaque, une escroquerie, déceler un mail frauduleux, ce genre de petites choses qui nous... et qui vient vers nous au quotidien, ben on se rend compte que c'est compliqué pour les personnes. Vous recevez un SMS d'un numéro où on vous parle du service public finance, les personnes vont aller cliquer sur le lien. Après, mon but n'est vraiment pas ici de vouloir incriminer qui que ce soit. C'est un constat.
Oui,
et ce constat me fait peur parce qu'on a de plus en plus cet écart qui grandit et on voit qu'on est de plus en plus touché, qu'on soit spécialisé ou pas. Les arnaques, les fraudes nous touchent tous.
Pourtant, le baromètre mettait aussi en évidence, et ça c'est plus intéressant, en tout cas c'est là-dessus qu'il va falloir à mon avis travailler aussi, c'est que 3 personnes sur 4, environ 73% des citoyens, se disent préoccupés par la sécurité de leur information personnelle. Ça veut dire qu'ils ont conscience de la fragilité dans laquelle ils sont, sans pouvoir forcément y pallier.
Oui, c'est ça. Donc on est conscient qu'effectivement, Internet n'est pas un lieu sûr. Ça, c'est une évidence. Mais on ne sait pas comment on doit faire pour se protéger mieux. Et là, je trouve que il y a un déficit de communication, il y a un déficit en termes de formation qui sont proposés par les organisations, par les entreprises, par l'État, pour essayer de faire conscientiser les personnes que Internet, c'est aussi un lieu qui est dangereux parce qu'on n'y fait pas ce qu'on veut et c'est pas un monde de bisounours. Et ça, malheureusement, je pense qu'il y a encore trop peu de personnes qui s'en rendent compte.
On est face également à un paradoxe important, c'est-à-dire qu'on le sait quand même que la préoccupation donc, par rapport à la sécurité est plutôt importante, mais 80% des Wallons, à peu près, estiment être capables de repérer une arnaque. Or, on vient de le voir avec les chiffres précédents, c'est pas forcément le cas.
Mais non, parce que 55% des Wallons, et vous le disiez très bien, n'ont pas ces compétences numériques de base, donc ont des difficultés à se sécuriser, à sécuriser leurs usages. Et pourtant, dans la perception qu'ils en ont, à peu près 80% disent « bah oui, en fait, je suis capable de pouvoir le faire ». Mais par exemple, vous prenez une lecture d'une condition générale d'utilisation sur les réseaux sociaux, pour pas mal de personnes, ça reste incompréhensible à lire. Or, c'est bien dans ces conditions générales qu'on voit comment, par exemple, Meta ou d'autres utilisent nos données à caractère personnel, utilisent ces algorithmes, comment notre flux se met à jour et ce genre de choses. Et donc, on se rend compte de ce décalage-là parce qu'on perçoit les choses comme étant, ben voilà, je suis capable de. Et en fait, dans les chiffres, on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas.
C'est un peu comme les personnes à qui on demande si elles seraient capables de faire atterrir un Boeing, s'il y avait un problème, et que la plupart répondent. Il y a des femmes aussi qui répondent. Attention, il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi des femmes, mais c'est vrai, c'est une majorité d'hommes qui répondent « Oui, bien sûr que je serais capable de faire atterrir le Boeing ». C'est cette impression qu'on a finalement d'avoir suffisamment de connaissances, qu'on démontre par le baromètre que ce n'est malheureusement pas le cas. Et alors, on pourrait se dire bah, « C'est pas grave, on va équiper, former les gens ». Sauf qu'il n'y a qu'une personne sur 3 qui disent avoir l'envie ou l'ambition de se former. Et ça, c'est aussi dommageable. Maintenant, les formations, elles sont parfois compliquées à trouver.
Bien sûr, elles sont compliquées à trouver, elles sont peut-être pas forcément bien ficelées non plus, parce que un des problèmes qu'on rencontre souvent, et je le vois aussi quand je donne ces formations, c'est qu'on a tendance, nous les formateurs, de manière générale, à émettre énormément de théories dans la formation, alors que les gens, ils viennent pas chercher ça du tout. Ils viennent chercher quelque chose de pratique, quelque chose qui leur parle, et avec lequel ils peuvent repartir en disant, ben voilà, demain, j'ai vu ça en formation, je peux l'appliquer. Et ça fait aussi partie de notre job en tant que formateur, c'est d'essayer de casser cette logique de théorie pour aller vraiment vers du concret. Et ça, c'est important à devoir le faire parce que votre réalité ici à la RTBF n'est pas celle, par exemple, du ministère de l'Enseignement ou ce genre de choses.
Justement, en parlant de l'enseignement, on parle de formation, on parle des adultes à travers ce baromètre, etc. Mais au fond, il faudrait quand même avoir, je pense, et moi je plaide pour ça depuis des années, un cours d'informatique dans les écoles. 1 heure par semaine, ça ne serait pas énorme, mais qu'est-ce que ça serait efficace aussi quand même pour pouvoir leur apprendre à sortir aussi de cette impression, parce que je pense que si on interroge les jeunes, ça sera encore pire au niveau de l'impression de je gère, quoi.
Oui, c'est ça, hein. C'est vraiment ce sentiment-là, et on le voit avec l'intelligence artificielle. Oui, ils l'utilisent parce que, à usage privé, ils l'utilisent aussi à l'école, mais comment ils l'utilisent? Et ça, s'il n'y a pas que eux, finalement, et nous aussi, pour certains qui l'utilisent, voilà, je parlais tantôt, on pose la question, on prend la réponse et on se dit, ok, c'est bon. Mais non, parce qu'en fait, le vrai travail commence là. Donc, effectivement, il y a tout ce côté éducation, suivi, accompagnement, et c'est aussi l'accompagnement des enseignants qui va être un fameux défi aussi, bien que des choses changent, ils apprennent à l'utiliser, mais il faudra encore évidemment poser du cadre par rapport à ses usages et à cette manière de l'utiliser.
Soyez donc bien attentifs hein, à tout ce qui est arnaque et autres. Il y a une recrudescence, pour en ce moment, je suis dans une recrudescence de tentatives, avec des coups de téléphone d'un numéro privé tous les 3 jours pour me dire que ma carte de crédit a été volée, ou en tout cas il y a des mouvements suspects. Je pense que il n'y a plus rien sur mon compte. Je pense que vu le nombre d'appels que je reçois, des mails aussi qui sont envoyés. Donc, soyez toujours bien attentifs. Il vaut mieux vérifier à chaque fois auprès de votre organisme, quel qu'il soit, s'il a bien essayé de vous atteindre ou pas, en sachant que la plupart, et en tout cas en ce qui concerne Cardstop par exemple, Cardstop ne vous appellera jamais d'eux-mêmes. Jamais. Donc, personne ne va vous appeler pour vous dire que votre carte de crédit a un problème. En réalité, ça n'est donc pas des appels officiels. Vérifiez l'adresse aussi. Enfin, on a déjà répété plusieurs fois ce genre de choses, donc soyez attentifs, mais n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur des formations qui seraient données près de chez vous afin de pouvoir atteindre cette fameuse maturité numérique dont les enjeux sont quand même énormes pour tout un chacun du point de vue de la protection de sa vie privée, de ses données, etc. Est-ce que vous avez, dans la pratique que vous avez, puisque vous avez beaucoup côtoyé aussi des personnes qui sont en formation, des choses comme ça. Vous avez de l'espoir ?
Oui, j'ai de l'espoir parce que sinon, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps. et c'est vrai, la réalité des chiffres est celle-là. Bien qu'on se bat au quotidien pour que les personnes soient encadrées, soient sécurisées, qu'ils puissent avoir des usages qui soient éthiques, responsables, notamment avec l'IA ou dans la manière d'utiliser le numérique. Et on voit quand même que les chiffres ont du mal à suivre. Et les chiffres ne changent pas. Bien au contraire, les chiffres sont de plus en plus alarmant dans d'autres parties de ce rapport.
Hein. C'est ce qui explique, et on conclura par là, que l'Agence du numérique est inquiète aussi par rapport à ces chiffres du baromètre et préconise une attestation.
Oui. Ben, apparemment, c'est ce qui effectivement ressortirait aussi du baromètre, c'est qu'on serait dans une logique de vouloir dire, si vous voulez savoir si vous êtes compétent ou pas en numérique, on va vous proposer par la suite une attestation qui dira, vous avez effectivement bien les compétences numériques de base. Et là, je fais référence au référentiel DISHCOMP, je parlais l'autre jour. Sur cette même base des compétences numériques de base qui ont été mises en place par l'Europe, l'Agence du numérique voudrait, elle aussi, mettre ça en avant par une attestation qui vous permettrait d'être reconnue par vos compétences numériques.
Alors, ça voudrait dire aussi que vous avez suivi un cursus, s'il vous manque des choses, ou en tout cas des formations, s'il vous manque des choses, et ça peut être évidemment intéressant.
Oui.
Merci beaucoup, Andrew, d'avoir décortiqué ce baromètre de l'Agence du numérique pour nous.